lire si jamais vous avez l'imprudence de les ouvrir, mais en vous rappelant que ce qui fait une Kabbalah en tant que telle reste toujours oral. Ce qui fait que chaque fois qu'on a mis quelque chose par écrit, c'est déjà de l'ordre du Keli, Ze Keli Vanvehu, je dirais les chassidis, vous avez. Mais l'essentiel à Torah Shebalpé reste Torah Shebalpé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, alors, n'ayez pas l'inquiétude. Vous en aviez. Bien, alors nous avons vu que est apparu un halal comme résultat, comme totsa, conséquence de la décision de créer un monde, c'est-à-dire conséquence du processus du tzimtzum, de la rétractation d'un être sur un point de son être. Vous vous rappelez de ça, de l'être antérieur. Et un tino, un cave, pénètre dans ce halal. Et je vous ai dit hier, c'est là que nous étions arrivés, il me semble, que ce tinor représente la lumière rejetée à l'extérieur et qui a tendance à revenir avec impétuosité. Parce qu'il ne peut pas y avoir arkava, complexité, à l'extérieur du halal. Le or est pashut, la substance est simple. Et donc, le projet de créer un monde autrui, autre que le créateur, fait apparaître la dualité, donc la multiplicité, donc la complexité, et cette multiplicité, complexité est impossible pour la substance simple, sort rejetée dans les dadim, à l'extérieur de la sphère du halal, a tendance à revenir avec tokef, impétuosité. Et si on le laisse revenir, hurban du halal. D'où une force qui s'appelle Goura, qui joue ici à la périphérie du vide des mondes, pour empêcher l'absolu d'entrer dans le monde. Si l'absolu entre dans le monde est détruit. Est-ce que c'est clair? Une des images que donne la Kabbalah, c'est si vous mettez une bougie dans le soleil, la bougie n'existe plus. Il n'y a même pas de problème de bougie, la bougie dans le soleil. Alors si c'est le soleil qui vient dans la bougie, qu'elle va rompre, à plus forte raison. Donc nous devons être protégés de l'être. Et c'est pourquoi notre être relatif de créature est tellement protégé de l'être absolu. L'équation ici, ce n'est pas l'être et le néant. C'est pas plus exactement la dualité ici, ce serait pas matière et mémoire comme dit la personne, enfin je veux dire l'esprit et la matière, ce serait l'être et le néant dans le sens que la matière nous protège du néant, comme si nous devons être protégés par une matière qui nous empêcherait de nous dissoudre dans le néant. C'est-à-dire, notre peau, c'est un bouclier, c'est une protection. Notre corps protège l'esprit. En le protégeant, il l'enferme, en le protégeant, il le limite, c'est un autre problème. Mais vous comprenez que la dialectique de dualité ici est très différente des perspectives occidentales. Opposition entre l'esprit et la matière. Et au contraire, alliance entre l'esprit et la matière contre le néant. La dissolution dans le vide. Bien, fermez la parenthèse. Alors, ce que je disais, c'est que un cave va pénétrer dans le... C'est là que s'exprime, dans cette image, qui est plus qu'une image, mais prenons-la au niveau de l'image, la volonté de l'être absolu de créer un monde. C'est pourquoi on va appeler ce cave, qui signifie un rayon, qui pénètre dans le halal, on va l'appeler tzinor. Tzinor, c'est-à-dire, bon, tzinor, vous avez compris déjà la traduction. Tzinor, c'est-à-dire raton. Vous vous rappelez de l'équivalence. Tiens. C'est-à-dire, c'est là qu'est figurée la volonté du créateur de créer un monde par le fait qu'un cave entre dans le halal. Alors on l'appelle tzinor, ce cave. Mais ça veut dire raton. Est-ce que c'est clair jusque-là? Pourquoi? Il y a deux dimensions. C'est cette volonté de créer un monde, c'est à la fois qu'il y ait un halal, mais que dans ce halal, il y a de l'être. Alors c'est le tzinor qui exprime l'être du halal. C'est le ratson aboré. C'est clair jusque-là? Bon. Alors, là où nous étions arrivés la dernière fois, c'est que ce cave va, pénétrer dans le halal avec une très grande force. Il joue ici tzimtzum dans le premier sens, diminution. Si la force du or qui rentre par ce cave dans le halal était celle de tout l'or qui avait été rejeté à l'extérieur, le halal disparaîtrait. Donc il faut un tzimtzum considérable. Deuxième gevura, La première Gevoura, c'est cette force-là que je vous ai appelée El Shaddai, vous vous rappelez? La deuxième Gevoura, elle est là. Rapetissez le torrent d'êtres qui veut repénétrer dans le halal. Est-ce que c'est clair? Vous voyez pourquoi dans l'ordre des Sfirot, pour ceux qui savent déjà cela, Gevoura intervient après Chesed, pour diminuer Chesed. Parce que Chesed risquerait d'être dévastatrice. Celui qui veut donner, donne tout. S'il ne donne pas tout, il n'y a pas de don. Le véritable don, c'est tout. Et alors, tout, c'est trop. Donc, il faut que la Gevoura intervienne de nouveau pour rapetisser ce Chesed Elyon qui est à l'origine de la construction du monde. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon, simplement pour vous rappeler cela. Or, ce cadre aurait tendance à revenir jusqu'au centre du halal. Et s'il revient au centre du halal, le halal est détruit. Vous avez compris ça tout seul. Okay? Par conséquent, on va prendre ici une idée un peu difficile. C'est que le cadre, sa tendance, c'est d'arriver jusqu'au centre du halal. Et vous comprenez que ce centre-là, et Romez fait allusion à la créature. À la créature achevée, réussie, constituée comme être recevant l'être. En réalité, il y a une tendance à arriver au centre, mais il faut qu'il y ait un empêchement d'arriver au centre. Parce que si ce cas arrive jusqu'au centre, le halal est empli de lumière et on efface tout, on recommence. C'est clair? Alors c'est pourquoi je vous disais que dès que le cas va arriver au centre, de nouveau là se reproduit l'événement de Tsimtsoum à l'infini jusqu'à notre monde, et dans notre monde où nous sommes logés, ça continue dedans. Bon, retenez cette idée. Alors, ce or là va être appelé Or Ensof. Différent de Ensof. De Ensof, on ne dit rien, sinon que c'est l'être absolu préexistant à tout. Et donc, nous n'avons aucune perception possible. Nous avons perception de Shmo, Ratzon égale Shmo. Vous vous rappelez? De son nom, mais pas de lui. Tout ça, on l'a vu hier, je ne reviens pas en détail. Okay? Alors, cette lumière qui va donner l'être au monde ne s'appelle pas le Enso. Ne faites pas cette erreur panthéiste. Okay? Mais le Or Enso. Et pourquoi Enso? Parce que le sauf se veut qu'il atteigne le centre, mais il n'y a pas de sauf pour lui. Il n'arrive pas au sauf. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi on l'appelle Ensof. Le deuxième équivalent, c'est un peu plus simple. Ensof, c'est exactement le sens de Véchit. C'est-à-dire une manière d'être qui consiste à être constamment commencement. Il n'y a pas de fin. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de fin? C'est-à-dire que c'est constamment commencement. Vous voyez l'allusion au premier verset de la Torah. C'est avec une réalité dont la manière d'être est d'être constamment commencement que Dieu a créé le ciel et la terre. Avec un réchit. Mais qu'est-ce qu'un réchit? C'est une manière d'être qui s'appelle Ensof. Alors c'est le Or qui vient de Ensof. Notez bien cela, une différence absolue entre Ensof et le Or Ensof. Bien. Alors, je reviens donc à mon schéma. Et lorsque ce cave revient dans le halal, je vous ai dit hier, en fin de cours, il va rencontrer des niveaux de vide. Qu'est-ce que c'est que ces niveaux de vide? C'est, en termes ontologiques, métaphysiques, c'est des situations différentes de proximité ou d'éloignement de la source de l'être qui est à l'extérieur du halal, mais qui se manifeste à nous à travers le Or Ensof. Vous suivez? À travers ce câble. Et ces niveaux sont à l'infini, et on les récapitule schématiquement par 10 niveaux, c'est pourquoi on vous parlera de 10 sphères. Alors, constitution d'une sphéra, il y a le Keli, je vais mettre ça sous forme d'image. Le Keli, et c'est surtout du Keli dont je vais parler aujourd'hui, le Keli est un tsinor, c'est-à-dire une sorte de conduit. À l'intérieur du Keli, il y a du or, qu'on appelle le or pnimi, le or intérieur au Keli. C'est-à-dire le or que le Keli peut déjà contenir. Et il y a le or makif, le or qui entoure le Keli. Et c'est le or qui est promis à ce Keli, mais que le Keli ne peut pas encore contenir. paradoxe apparent, mais nous allons penser en hébreu, c'est-à-dire on écrit de l'autre côté, et quel est l'or le plus précieux? L'occidental aurait tendance à répondre l'or pnimi. La Kabbalah nous répond non, l'or makif. Parce qu'il est de plus grande valeur, et c'est pourquoi il est à l'extérieur, parce que le keli n'est pas encore capable de le contenir. Est-ce que c'est clair? Paradoxe, absolument, apparemment. Mais réfléchissez bien à ça. Alors, c'est pourquoi le mot de Sphira équivaut à. Sphira, c'est Or et Keli. Et puis, il y a Or Pnimi et Or Makif. Mais je schématise Or et Keli. Et alors, vous aurez des noms qui désigneront les Kelim, et des noms qui désigneront les Orot, et des noms qui désignent les Sphirot, qui sont l'ensemble du Keli et du Or. Alors, ne vous trompez pas dans ces registres de vocabulaire. Tout à l'heure, ou peut-être demain, vous aurez quelques petits échantillons, mais faites bien attention que dans les textes que vous pourrez avoir entre les mains, les mots qui désignent chaque niveau de Sphira, eh bien, sont donnés à trois registres différents. Si je parle du Or de la Sphira, c'est un vocabulaire. Si je parle du Keli de la Sphira, c'est un autre vocabulaire. Et si je parle de la Sphira en tant que Or et Keli, c'est un autre vocabulaire. Et je vous dirais, toutes ces traditions, lorsqu'elles sont mises par écrit, par nécessité, à travers les siècles, sont mises par écrit en désordre absolu. Il faut arriver intentionnellement pour tromper l'ennemi. L'ennemi, c'est pas le lecteur, c'est le lecteur. C'est-à-dire de telle sorte que ne comprenne que celui qui peut comprendre. Alors, tout est en chaos, comme tous les commencements. Je n'ai qu'arrivé dans les temps très contemporains que nous avons commencé à avoir quelques petites synthèses de clarification des gens de grande charité qui nous ont dit « on va vous donner un coup de pouce ». Ils ont écrit au XVIIe siècle pour le XXe siècle. Et alors les gens du XXe siècle ont déjà besoin de commentaires de ce qu'on avait écrit pour eux, de telle sorte que seuls les gens du XXIe siècle comprendront ce que devaient comprendre ceux du XXe. Mais tout est en désordre. Alors ne vous trompez pas, un livre de Kabbalah ne peut pas se lire tout seul. Pas plus qu'un livre de Torah quelconque d'ailleurs. Mais à plus forte raison, un livre de Kabbalah. C'est clair ce que je dis. Et alors, faites attention de ce mélange. Je vous en ai apporté un pour que vous voyez au moins. Voilà le saint livre où c'est écrit des petites explications. Si vous avez la chance de pouvoir étudier ce livre, qui est un des plus récents, c'est le livre de commentaires du Rav Ashlag sur l'enseignement du Hari. Alors, il s'appelle Talmud Esser Sfirot. Et là, il a été écrit il y a une trentaine d'années. Et déjà, il nous faut des commentaires pour comprendre ce qu'il voulait dire. Vous voyez comment, avec le temps, on se dilue. On se diminue. Bon. Donc, tout ceci pour vous dire que finalement, c'était pour vous rassurer supplémentairement, tout ce qui est Torah Shebaalpeh reste Torah Shebaalpeh. Bien. Alors, ça y est, je vous ai trompé l'ennemi. Là, vous avez bien compris de quoi il s'agit. Faites bien attention dans ce mélange du vocabulaire des registres de nomination. Le nom d'un keli d'une sphira, ce n'est pas le nom du or de la sphira, et le nom de la sphira, c'est un autre registre. Mais tout vous est donné mélangé dans les livres. Faites bien attention à ça. C'est un chemin tout droit, mais qui est complètement encombré de fausses pistes. Et c'est intentionnel. Et vous êtes rassurés. Bon. Alors voilà, nous allons apprendre un autre terme pour bien nous faire comprendre comment se constitue le keli. Et là, faites bien attention, nous abordons enfin l'identité de la créature en tant que telle. Lorsque la lumière s'était retirée, elle avait traversé en se retirant des niveaux de vide. Ces niveaux de vide que lorsqu'elle revient en tant que cave, elle va rencontrer. Okay? Est-ce que c'est clair? Réfléchissons d'abord là-dessus. La lumière, en se retirant, eh bien, se retire, mais par la force du Tzimtzum, Gvura, mais elle traverse ces niveaux de vide dont elle se retire. C'est clair. Et elle dévoile ce qui reste lorsqu'elle se retire. Et ce qu'elle dévoile, ce qui reste lorsqu'elle se retire, je pourrais l'appeler en français, dans un sens assez analogue auquel l'emploie M. Levinas, qui le prend du Raphaïm de Volodine, en le disant parfois d'ailleurs, et qui est l'idée de trace. Elle laisse une trace. En hébreu, d'abord en araméen, ça se dit réchimou. Alors notez bien ce mot-là. Le réchimou. En hébreu, vous reconnaissez le mot de
Chini.
Rochem. Réchima, c'est une note, une liste. Rochem.
Impression.
Impression, trace. Ah oui, qu'on ne peut plus parler français, parce qu'impression et trace, dans ce sens-là, c'est rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est qu'une trace? Eh bien, c'est ce dont nous avons parlé hier. Il y avait, il n'y a plus. C'est ça la trace. La trace de cela, qu'il y avait, il n'y a plus. Et cette manière d'être de la trace, cette manière d'être de la trace, c'est une manière d'être en n'étant pas. Mais c'est quelque chose, une trace. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est-à-dire la lumière a quitté le halal, mais elle a laissé, en traversant ces niveaux de vide, à chaque niveau, la trace d'elle-même correspondant à ce niveau. Lorsque le cave revient, il rencontre ces traces, c'est si vous voulez cette tête en creux qui est la trace, qui est le réchimou, et il abandonne dans cette trace une lumière revenue, des étincelles, et ça constitue le keli de chaque sphère. Est-ce que c'est clair? Je vais essayer de vous citer un midrash. L'idée était claire? Lorsque le cave revient, à chaque niveau, il s'irradie dans le keli d'une sphira. Comment? Il rencontre ce réchimou qui a un infini de niveaux et est déjà une structure de tous ces niveaux en manque d'être, en creux d'être. Et alors, il y a quelque chose qui n'est rien, mais il y a quelque chose déjà. La trace de ce qu'il y avait qui n'est plus. Et quand de l'être a été quelque part, même s'il quitte totalement la place où il se trouvait, il reste quelque chose. Hein, qui n'est pas de l'ordre de la mémoire, qui est d'ordre de la trace. Et est-ce que c'est clair? Alors c'est cette trace-là que le cave rencontre, et s'irradie en elle, en y abandonnant Messirut Nefesh. Okay. D'ailleurs, ce or s'appelle or des Nefesh. On va avoir des courts-circuits comme ça, c'est pas grave. En y abandonnant des étincelles de lumière qui vont constituer l'être du Keli. Il y a une sorte de collaboration entre le Halal, le Réchimou et les Nistotsot, les étincelles du Kav, font exister le Keli, ce que nous appelons la matière. C'est-à-dire la manière d'être de l'être recevant l'être dans le stade où elle ne le reçoit pas, où elle se constitue comme celui qui recevra l'être. Et alors le haut revient dans ce qu'elle dit, et ensemble c'est la sphira. Hey, pas trop, c'est pas trop à la fois. L'idée est simple. Bon. Je vais donner rien qu'un un exemple dans un tout autre registre du Midrash. Dans le Midrash, tu vas m'aider à retrouver la source. On apprend que c'était Abraham qui était descendu en Égypte, et puis lorsqu'il revient de l'Égypte au pays de Canaan, il revisite toutes les auberges où il avait passé. Tu te rappelles ce midrash? Voilà, c'est joli, vous avez. On se demande, qu'est-ce que la Torah nous apprend ici? Il a visité toutes les étapes où il était passé. Ben c'est ça, c'est la lumière qui revient de là où elle était partie. Là où elle était passée, elle revient. Elle reconnaît son chemin. Comment? Je parlais plutôt d'une vertu morale, de nouveau. On est passé par des auberges. En général, ça arrive à la jeunesse. Ça s'appelle des auberges de jeunesse. Et puis alors, quand on revient, alors il faut dire merci. Alors on prend les mêmes étapes pour dire merci. Est-ce que c'est clair quand le voyage est réussi? Bon, vous voyez comment le logos du Midrash et le... ne peut se décrypter qu'au niveau du logos de la Kabbalah. C'est-à-dire les Baalei Midrash, c'était les premiers maîtres de la Kabbalah. Bien.
Est-ce que ça vaut seulement pour l'œuvre ou est-ce que ça vaut aussi pour le monde physique?
Tout être.
Tout ce être. Qui est vivant.
Tout ce qui existe en tant que créature. Nous sommes en monothéisme radical. L'homme est le niveau... où la créature est devenue le quelqu'un que le créateur voulait créer. Je vous ferai une parenthèse avec... J'étais très frappé en relisant les notes de la conférence de M. Goldberg. Qui y était ? J'étais très frappé du parallélisme de ce qu'il a dit avec ce que je vous avais dit la veille. On ne s'était pas concerté. C'est très réconfortant. Okay. Sauf tout le paragraphe concernant l'évolutionnisme sur lequel je reviendrai dimanche dans la table ronde. Okay. Mais à part ce paragraphe, vous voyez que la tendance de la tradition juive, c'est d'aller d'emblée à l'élucidation morale des notions métaphysiques. Et c'est cela qui nous rend radicalement différents des autres cultures. Enfin, qui rend les autres cultures différentes de la nôtre. Okay. Parce qu'après tout, c'est l'autre qui est différent, c'est pas moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien, revenons donc à notre problème. Oui, réfléchissons bien à cela. C'est que la lumière, en se retirant, a dévoilé le Kelly. Et le Kelly se constitue dans la rencontre nouvelle entre la lumière et le Réchimou de lui-même. Et ce qui me fait dire déjà à l'avance que la racine d'être du Kelly est plus haut, plus profond que la racine d'être de la lumière. Mettez ça un peu dans votre tête d'hébreu monothéiste. Qu'il y a une dignité cachée de la matière qui est peut-être plus profonde que la dignité de l'esprit. Que l'objectif du créateur, c'était en fin de compte le Kelly. C'était peut-être pas tellement une blague, ce que j'ai dit tout à l'heure. « Zekeli venveu » pour ceux qui entendent comment prononcer Lubavitch. Okay. Et je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils disent, mais enfin, sûrement. Et alors, en tout cas, pour revenir... je vais dire une blague chez les juifs allemands. Vous savez que quand on prononce un des noms de Dieu, rien en français comme c'est pas joli, nom de Dieu. Et un des Shemot, alors on change le He ou le Aleph en Kouf. C'est l'habitude chez les Ashkenazim. Chez les Sfaradim, c'était Dalet. Enfin, on s'est Ashkenazisé. C'est pas grave, c'est aussi des Juifs. Et alors, pour revenir. Je m'appelle Ashkenazi, n'oubliez pas. Pour revenir au problème, les fidèles de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch n'osaient pas dire Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Alors il disait Rabbi Shimshon Raphaël Kirsch. Vous avez un Lechaïm particulier à Francfort. Bien, alors on revient au problème. Et c'est là que nous allons maintenant réfléchir à la notion importante de Shvirat HaKelim. Bien attention à ça. Quelle est l'origine de l'état de chaos dont parle le deuxième verset ? Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz, Veharetz Haïta, Tohu Vavohu. Eh bien, c'est là que j'embraye alors dans la formule même du Hari, ce Tohu Vavohu, c'est le résultat de Shvirat HaKelim. Là va s'ouvrir tout un panorama d'explications. Et il faut traduire Veharetz Haïta, Tohu Vavohu. Et la terre était devenue Tohu Vavohu. C'est comme ça qu'elle était, parce qu'elle est devenue haïta, ve-haïta. Il y a une forme atténuée ou indirecte de vav conversif ici. Et ce tohu vavohu, c'est le résultat de Shvirat HaKelim, va nous enseigner le Hari. Et qu'est-ce que ça signifie ? Alors, faites bien attention. C'est-à-dire, si je me pose la question, quelle est l'origine de l'état de chaos, qui est celui du commencement de l'histoire du monde, non pas du monde, mais de l'histoire du monde, en tant que monde, il n'y a pas de faute. Il y a un processus nécessaire a priori que nous décrit la Torah. C'est ça que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. La faute, et en particulier la faute du premier homme dont on va nous raconter l'histoire, c'est un incident qui complique l'état de chaos, mais qui n'est pas responsable de l'état de chaos. Et dès là, dès cette analyse, nous avons une déculpabilisation de l'être de créature colossale qui nous est donné par la Kabbalah. Vous avez compris pourquoi je dis déculpabilisation, hein ? Parce qu'il pourrait y avoir des traditions, lisant la Bible, qui nous diraient, eh bien, l'état de chaos, c'est le résultat de la faute. On ne sait pas lire, ce n'est pas ce qu'a dit la Bible. L'état de chaos est primordial, il s'attache au résultat du fait de créer, de façon nécessaire a priori, et il n'est pas le résultat d'une faute. Est-ce que c'est clair ? Je veux dire que toute cette espèce de panique tragique de la rencontre de l'état de chaos, qui rend si pessimiste les espérances religieuses des traditions extérieures à l'hébreu, est évacué complètement du récit de la Bible hébraïque. La faute, c'est grave, ça va venir compliquer l'état de chaos. Mais l'état de chaos n'avait pas pour cause la faute. Nous ne sommes pas capables de ça. Rassurons-nous. C'est ce qu'il faut découvrir. C'est très grave de compliquer le chaos, parce qu'ensuite le tikkun du chaos devient très difficile. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mais il nous est donné un problème d'organisation de chaos, a priori, où il n'y a aucune culpabilité. En tout cas, aucune culpabilité a priori. Lorsque j'y acquiesce, que j'y adhère, alors je deviens responsable de cette culpabilité-là. Mais a priori, la Torah n'a jamais dit que l'état de désordre qu'il y a dans le monde, c'est la faute de l'homme. Voilà, réfléchissons bien à cette idée. Ensuite, ça va intervenir, on va raconter un petit incident. Que la Torah nous raconte avec un humour colossal. Petit incident que personne ne comprend. Moi, je reste toujours admiratif devant cette tradition de l'Occident qui, de cette histoire de pomme incompréhensible, a rendu notre premier ancêtre, le premier homme, responsable de tout ce que les hommes font. Une religion de quoi ? L'humour du récit biblique. On nous raconte une histoire de fou. Le premier homme a mangé une pomme, et alors, le chaos ? Dans la tête de qui ça peut rentrer ? Alors,
C'est même pas une pomme.
C'est même pas une pomme. Bon, en fait, disons. Et ça, c'est l'humour à l'intérieur de l'humour. Enfin, je crois que ça vient, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous en parler une fois, que malgré tout, dans les anciennes langues, le mot de pomme, avant de désigner le fruit de tel arbre, le pommier, désignait tous les fruits à pomme. C'est-à-dire, c'est un mot pour dire fruit, pomme. Il y a des arbres à pomme, il y a des arbres à baie, il y a des baies. Vous voyez ce que je veux dire ? La poire, c'est une pomme. Okay ? Et dans ce sens-là. La poire. Je ne sais pas, il y a une pomme de terre, il y a une pomme d'air. Et alors, mais il est possible que ça vienne d'ailleurs dans le monde chrétien. Je ne sais pas si nous en avons parlé, j'ai ça dans ma mémoire, que ce n'est pas à vous. C'est qu'en latin, le mot de malum, malum, M-A-L-U-M, ça veut dire simultanément la pomme et le mal. Alors peut-être il y a eu une confusion de termes en latin qui s'est produite quelque part. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que ça vient plus du fait qu'on voulait parler d'un fruit. Et finalement, ça a été emprunté à l'Extrême-Orient. La coupe de la pomme fait apparaître un pentacle, alors figure magique, mystique, on a dit ça doit être une pomme. Mais la poire aussi. Bon. Alors, gardons ce récit comme il est, c'est-à-dire mystérieux. Simplement, je l'ai cité pour vous dire que ce n'est pas ce récit-là qui nous explique la cause du chaos. Le chaos est le résultat de la rencontre entre le Kav et les Kelim des Sphirot. Suivra à Kelim. Comment ça se passe? Bien. Voilà. Nous avons déjà vu, je vais mettre l'image un peu plus grande, nous avons déjà vu qu'il y a 10 de quoi. Il y avait un crayon. La couleur, ça m'aiderait, mais enfin, tant pis. Il n'y a pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Bon. Alors nous avons déjà vu que le cave va rencontrer et s'irradier chaque fois. C'est cet ensemble de niveaux du vide que l'on récapitule symboliquement, si vous voulez, à 10 niveaux. Merci beaucoup. Alors, premier postulat, c'est que le cave rencontrant le premier Kelly va irradier le Keli de la Sphira Keter. Alors je vous mets la liste ici. Après nous essaierons de traduire, ça va être très difficile.
Keter, c'est la première ?
Oui, la première par en haut, okay, ou à l'extérieur. Ensuite, une fois qu'il a irradié là, et tout ceci va se faire simultanément. Irradie, it pash tout. Bit pashet. Et alors, tout ceci va se faire simultanément. Le processus n'est que d'exposition logique. Okay, et il continue, il ira dire la deuxième sphira, qui est la sphira Chokhma. Il continue, il ira dire la troisième sphira, qui est la sphira Bina. Bon. Et dans ces trois niveaux, ne se passe pas le processus que nous allons expliquer maintenant, qui est celui de sphira Takelim. J'ai en tête la question que vous avez posée hier, mademoiselle. Elle a oublié qu'elle a posé une question. C'est vrai, oui. Et puis voilà qu'il arrive à la première des sept sphirotes inférieures, qui est Chesed, la seconde étant Yogoura, la troisième Tiferet, je mets le table du début, le table de la fin, Tiferet, pardon. Un, deux, trois, oui, la quatrième Netzach.
Netzach, oui.
Et la cinquième Hod, la sixième Yesod.
C'est quoi la cinquième
Hod. La sixième Yesod, la septième Malchut. Alors,
la troisième
Tiferet. Bien. Alors, dès qu'il arrive à Chesed, successivement, tous les kélim éclatent jusqu'à celui de Malchut, et la terre, qui est l'allusion à l'être recevant l'être, au kéli de tous les mondes, c'est-à-dire l'être de créature, et nous sommes en cela des terrestres, si vous voulez, c'est-à-dire la créature, eh bien, ça va être encombré de ce qui se passe là. Chaque fois que la lumière va rencontrer un kéli qui se brise, parce qu'il est fragile, on verra pourquoi, la lumière remonte. Et le niveau qui lui correspondait reste vide de lumière. Mais le kéli est brisé, et c'est pourquoi la lumière remonte, parce qu'elle n'a pas de kéli pour en être véhicule, et les débris du kéli tombent. Et successivement, ce tohu vabohu, ce chaos, c'est les débris de ces sept sphirotes qui tombent au centre, plus exactement des six qui tombent sur la septième. Et l'écrase. Parce que...
Et pourquoi elle
n'est pas expliquée après la question. C'est-à-dire que l'état du niveau arrête, okay. C'est ce tohu vabohu dont parle le verset, et que ce keli de Aretz, qui est le keli de Malchut, est complètement détruit par le bombardement des chevirines, comment dire, des débris de ces kélims qui ont été éclatés. Et vous voyez que les six qui sont sept, lumière, là, ne sont pas dans notre monde. Elles sont remontées parce qu'elles n'avaient pas de kélims. Alors, deux questions. Pourquoi ces kélims ont été détruits et pas les précédents? Et deuxièmement, que signifie l'état du monde au deuxième verset? Regardez bien. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, Haaretz haïta tohu vabohu. Shamayim n'en parle plus. Évanoui. Okay? Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Le fait que Shamayim a disparu, c'est ça, ces lumières qui sont remontées plus haut. Parce qu'elles n'avaient pas de kélim. Donc le problème, c'est de reconstituer les kélim de Shamayim. Okay? Et résultat, la terre reste, mais elle est encombrée de ce cas. Et nous allons nous demander que signifie tout cela. Ça va jusque-là? Alors, oui. Léat, première question. Pourquoi les Kélim, ici, vont se détruire?
Seulement, comment vous pouvez se faire en hébreu? Sphira.
Okay. Alors, première explication que nous en a Harry. Les Kélim de ces trois sphirotes, parce qu'elles sont très proches du Ensof, sont capables de retenir la lumière qui leur est offerte. Et là, nous allons apprendre de nouveau un mot d'hébreu qui va éclairer ce problème. Vous connaissez le mot Zach. Zach veut dire en hébreu Zach pur, plus que ça encore, transparent, Zach qui ne fait pas obstacle. Okay? Zach. Mais tout de suite, nous allons l'entendre dans le sens moral. Zach renvoie à Zakout.
J'ai une raf.
Avec un kaf, ken, raf. Zakout. Ça veut dire que, par exemple, le verre se dit zruchit. Okay. Quelque chose qui est transparent. Quelque chose qui est affiné, épuré. Okay. Et oui, c'est très proche de la notion de zechout. Qu'est-ce que c'est le zechout?
Le mérite.
Alors, de quel mérite s'agit-il? Alors, première réponse que nous avons déjà eue, c'est que les Kélim de ces trois sphirotes supérieures, parce qu'elles sont proches de l'être absolu, ont suffisamment de Zakut. C'est suffisamment Zach. Alors ça n'éclate pas. Et l'opposé de Zach, dans ce problème, c'est Av. Qu'est-ce que ça veut dire Av?
Épais.
Comme adjectif, oui. Épais, grossier. Okay. Av. Épais, nous dirons plutôt Avé. Okay. Mais au niveau de l'hébreu biblique, Rav, ça veut dire aussi un nuage. Okay? Opaque, grossier. Voilà quel est le sens. de cette explication. Oui, cette lumière qui revient avec le câble, elle veut arriver jusqu'au bout. Donc elle veut traverser les kélim. À chaque niveau, elle laisse la lumière correspondante à telle ou telle sphira. Mais son intention, si j'ose dire, c'est de traverser pour arriver jusqu'à l'être de créature. Vous suivez? Alors, si le Keli est Zach, le Or peut traverser. Si le Keli est Rav, étant donné que ce Or vient avec force, il fait éclater le Keli. Et c'est clair? C'est la première explication. C'est clair pour tout le monde. Donc, l'effort qu'il faut faire pour que la lumière d'une valeur considérée soit retenu dans notre monde, c'est d'épurer le Keli, d'obtenir un Zchout, c'est-à-dire de réaliser une Zakout. Tafastem, vous avez suivi.
Les trois premiers, c'est bien Keter, Chokhma et Bina, c'est ça?
D'accord. Alors je reviens maintenant à tout le processus. Bon, cette première idée est simple. Okay. Tant qu'il n'y a pas suffisamment de Zchout, de mérite, la lumière vient, mais elle se heurte à un obstacle d'opacité, de grossièreté, alors simultanément, elle casse ce qu'elle lit, elle remonte. Mais en bas sont entraînées des étincelles de la valeur considérée. Et c'est l'état de chaos qui nous est donné à l'origine de notre histoire. Et ce que j'essaye de vous décrire ici, c'est ce processus en tant que nécessaire. Nécessaire dans le sens philosophique. Ça ne peut pas être autrement. Que la créature soit d'abord à l'état de chaos. Et j'aborde une deuxième forme de l'explication. C'est la même, mais dans un deuxième registre, cette fois plus intentionnellement au niveau du problème moral. C'est assez kélim. Disons, je prends le premier. La lumière qui est offerte a 10 niveaux de valeur, puisqu'elle est l'unité de la lumière correspondante à chacune des 10 sphirotes. Donc, c'est les 10 orotes qui sont offerts au Keli de Keter. Mais le Keli de Keter est suffisamment Zach pour retenir aussi les nafotres. Est-ce que c'est clair? J'ai un peu changé de régime d'explication. Tandis que, dès qu'on arrive à Chesed, parce que c'est déjà éloigné du Orenzo, le Keli de Chesed ne pourrait retenir que le Or de Chesed. Comme il lui est offert aussi les 6 autres inférieur à lui, et qu'il ne les connaît pas, alors ce sont les 6 autres qui le brisent. Est-ce que c'est clair? Allez, je reprends. Le Keli de Keter est capable de se faire traverser par toutes les orotes, et de Keter, et de Chorma, et de Binah. Il retient Keter, et il passe le reste plus bas. Le Keli de Chesed, lui, pourrait retenir Chesed, mais il ne peut pas retenir les autres valeurs. Il ne les connaît pas. Alors il est brisé par elle. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez tout de suite la raison de Shmirat HaKelim et l'ordre du Tikkun. L'ordre du Tikkun, comment va s'affiner, se restituer ce Keli de Keter en acceptant les autres valeurs? Alors nous sommes en plein monothéisme. Qu'est-ce que j'ai dit? De Keter, de Chesed, Ken, en acceptant les autres valeurs. Là nous sommes en plein monothéisme. Le Tikkun, c'est l'unité des valeurs. Tant que ce Keli n'a pas retenu, n'est pas capable de retenir les autres valeurs aussi, il est brisé. Je reprends l'explication, elle est très simple. Le or qui est offert au Keli de Chesed, c'est pas seulement le or de Chesed qu'il pourrait retenir, c'est aussi le or de Geboura et de Tiferet, tout à la fois. Alors il voudrait bien retenir Chesed, mais il supporte pas les autres. Alors les autres l'éclatent, le font éclater. Comment restituer ce Keli de Chesed? C'est seul un homme capable de chesed et des autres valeurs en potentiel peut le restituer. Et celui-là s'appelait Abraham. Alors je vais vous donner la liste des correspondances. Qui a restitué les cieux? C'est-à-dire chacun de ces kelim de Shammai. Et après on verra un peu plus, mais si on est arrivé là sans difficulté, c'est déjà l'essentiel pour aujourd'hui. Vous avez bien compris? Donc, qu'on arrive finalement de nouveau à l'explication d'ordre moral. Et pourquoi Yashvira ta kelim? Tant qu'on n'est pas encore capable de l'unité des valeurs. Et ce qu'on appellerait, si vous voulez, dans la culture contemporaine, par exemple au niveau anthropologique, c'est la synthèse de la personnalité. Un homme qui ne serait que l'homme de Chesed sera perpétuellement en machber. Mazé machber, je vais rattaquer. tant qu'il n'est pas capable d'être aussi, ne serait-ce qu'en amorce, de homme de Geboura et de Tiferet et de Nessaredor. Oui, le mystère de l'identité hébraïque, c'est que sont advenus dans l'histoire du monde les Avot. Chacun d'entre eux a restitué le Keli d'une sphère perdue parce qu'ils étaient capables de l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors je vous donne la correspondance. Oui.